Vous allez écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTBFM.
Et bien le bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, pour cette nouvelle émission du Fréquence Geek en ce mois de novembre qui nous rapproche toujours un peu plus de la fin d'année 2019. Ici votre animateur Bastien, toujours présent, qui vous parle. Pour ce mois-ci, au programme jeux vidéo, nous irons faire un tour de cartes sur ordinateur, mais également et exceptionnellement sur jeux de table, avec le jeu Magic the Gathering Online et la venue du format pionnier. Après cela viendra ma critique et les retours sur le film Joker, dont je vous avais parlé le mois dernier. Et enfin, nous finirons avec les sorties en vrac et les événements à venir. Sur ce, c'est parti et on démarre avec les rubriques jeux vidéo. Magic the Gathering Online, le format pionnier. Et que cela concerne également le format papier, sachez qu'il y a actuellement un nouveau format qui est en phase de test sur Magic Online. Il s'agit du format pionnier qui couvrira l'intégralité des extensions ayant quitté le standard depuis 2014, à celles en course actuellement. Cependant, sachez que pour les néophytes qui m'écoutent, un bon gros paquet d'explications s'impose. Pour commencer, sachez que Magic, l'assemblée ou Magic the Gathering en anglais, est un jeu de cartes à jouer et à collectionner inventé par Richard Garfield en 1993. Ce jeu se distingue des autres jeux de cartes traditionnels par le fait qu'il existe aujourd'hui plus de 1800 cartes différentes. Ce jeu se distingue des autres jeux de cartes traditionnels par le fait qu'il existe aujourd'hui plus de 18 000 cartes différentes avec lesquelles chaque joueur doit construire son propre paquet de cartes, nommé deck ou bibliothèque lorsqu'on est en jeu. Régulièrement, de nouvelles éditions avec de nouvelles règles et mécaniques de jeu voient le jour. Le jeu reste donc tout de même identique à ce qu'il a été à la base conçu, tout en restant en perpétuelle évolution. Les cartes ont des capacités diverses et sont de rareté allant de la partie commune à la partie mythique. Ces cartes sont vendues soit par jeu thématique, pochette de 15 cartes aléatoires qui contiennent chacun une carte rare ou mythique, 3 inhabituelles, 10 communes, et une carte de terrain de base dans des éditions spéciales et jusqu'à récemment dématérialisées via des formats de jeux virtuels tels que Magic Arena et bien entendu Magic the Gathering Online. Si en soi il existe plusieurs modes de jeu sur table avec ces cartes à jouer, on retrouve en général une règle commune à toutes dans quasiment n'importe quel format à l'exception de certains tels que les formats des Commander ou EDH ayant pour principe de jouer un deck de 100 cartes au lieu de 60. Cette règle quasi commune la voici. Chaque joueur doit donc construire son propre deck comportant un total de 60 cartes avec un nombre d'exemplaires similaires limité à 4 cartes maximum par deck sauf effet de cartes qui l'autorise. Hors variante, il y a deux grandes catégories de cartes, les terrains et les sorts. Les terrains fournissent le mana nécessaire pour lancer les cartes des sorts permettant d'invoquer des créatures et ou de produire différents effets influençant le cours de la partie. Le deck doit donc contenir entre 21 et 24 cartes de terrain en moyenne, si ce n'est plus ou moins, et doit donc suivre certaines restrictions imposées par les différents formats du jeu. Ce qui implique le fait que les decks ne sont pas toujours compatibles dans tous les formats de jeu, sans compter des cartes qui ont été bannies et interdites dans tel ou tel format, afin d'équilibrer la donne, car trop puissantes pour le metagame qui ont été établies. Chaque joueur commence donc la partie avec généralement 20 points de vie, et mélange son deck, qui constitue alors sa bibliothèque. Le but étant de faire perdre son adversaire en général en réduisant ses points de vie à zéro avec des cartes à sort offensif, mais qu'il existe d'autres méthodes de jeu permettant cet objectif. Bon, maintenant que je vous ai présenté la bête, je vais en revenir au sujet premier de la rubrique, le format pionnier. Visant prioritairement les nouveaux joueurs désireux de pouvoir étendre leur expérience de jeu sur une métagame plus élargie, mais aussi plus abordable, le pionnier a pour objectif de combler le vide séparant le standard du moderne en créant ce format intermédiaire où seules les extensions sorties après la rotation du M14, soit à partir des cartes de Kamigawa, y sont autorisées, soit la globalité des extensions ayant côtoyé le format standard durant les 7 dernières années qui ont suivi. Les éléments importants à savoir sur les caractéristiques du format pionnier, qui en tant que format construit dit éternel, adhère aux règles suivantes. Le format du deck doit être de 60 cartes minimum, avec possibilité de réserve non incluse dans les parties. La taille du deck n'est limitée que par la possibilité de pouvoir mélanger soi-même son propre paquet de cartes. Jusqu'à 15 cartes dans votre réserve ou side y sont autorisées. À l'exception des cartes de base, plaine, île, marée, montagne et forêt, votre deck et vos réserves combinées ne peuvent contenir plus de 4 exemplaires d'une même carte, comptés par le titre de la carte anglaise équivalente. Des événements compétitifs prévus pour ce format, en plus des matchs tests déjà accessibles sur le jeu Magic The Gathering Online, sont planifiés afin de parfaire le metagame et la banlist des cartes qui seraient bien trop puissantes pour ce format. Et enfin, pour clôturer le sujet, voici les dates dites des premiers événements importants en format pionnier. Tout d'abord, il y aura le 30 janvier 2020 qui sera un Grand Prix qui aura lieu à Bruxelles. Puis le 31 janvier qui se déroulera à Nogaya. Le 6 février, un autre Grand Prix à Phoenix. Et enfin le 27 mars à Louisville. Le pionnier s'annonce donc comme le format phare du début de l'année 2020. Bien que le commandeur risque aussi de faire parler de lui sous peu. Mais ceci, je vous en reparlerai le moment venu. Fortement soutenu par Wizard, le pionnier sera le format joué lors des événements professionnels, que ce soit en format papier ou virtuel, au début de la prochaine saison, promettant aussi un bel avenir à ce nouveau format. Il est temps pour moi maintenant de marquer une petite pause musicale et je vous retrouve juste après pour la rubrique film, manga et animation. Voici de retour sur RTVM FM pour la suite du Fréquence Geek et c'est maintenant l'heure de notre section film, manga et animation avec au programme la critique du Joker. Alors, sorti en salle depuis le 9 octobre du mois, il est temps pour moi de vous en donner mon avis, maintenant que les risques de spoilers sont sans doute écartés à l'heure où vous êtes en train de m'écouter. Pour rappel, le film mettait en scène un nouveau Joker, le célèbre ennemi juré du Batman, dans un nouvel opus des plus sinistres avec le synopsis que voici. Dans les années 1980, à Gotham, Arthur Fleck, un comédien de stand-up, raté et agressé alors qu'il erre dans les rues de la ville déguisé en clown, se retrouve méprisé de tous et bafoué. Il bascule alors peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe. Alors, chef-d'œuvre ou flop intégral, me diriez-vous ? Personnellement, je dirais qu'il est aussi surprenant que complètement déroutant. Car son principal atout est ironiquement son plus grand défaut de qualité, qui est de faire perdre au spectateur le fil de l'histoire et de le laisser sur des scènes sans réponse. Si mes propos peuvent vous sembler assez bizarres, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tout ça en détail. Entre la performance incroyable dont fait preuve l'acteur principal Joaquin Phoenix en tant que Joker et la mise en scène de Todd Phillips, nous nous retrouvons avec un scénario doté d'une mise en scène trompant le vrai du faux à tel point que l'absence de réponse sur certains raccords en devient vraiment des plus troublants. Si cela peut à première vue paraître comme étant un défaut majeur aux yeux des spectateurs lambda, il n'en reste pas moins une excellente présentation de la folie dangereuse et sarcastique du Joker dont la principale pensée est la suivante. La vie n'est ni plus ni moins qu'une triste comédie dont il faut se moquer car il n'y a rien de vrai dans tout ça, pas même la mort. Il est fascinant de suivre la descente du personnage d'Arthur Fleck dans sa folie et la série des événements qui le frappent perpétuellement. Psychologiquement parlant, cette cascade de tragédies ambulantes déteindra tellement sur lui que le spectateur en viendra à ressentir lui-même l'égarement et l'impossibilité du personnage à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qu'il croit être vrai. En effet, à chaque fois que le personnage se retrouve dans une scène où il commence à positiver, c'est vers la fin du film que l'on se demande si tout ce qu'il avait eu de positif dans sa vie était du vécu ou du délire, sans vraiment connaître la réponse à la question, reflétant ainsi parfaitement le déni dans lequel s'engouffre le Joker. Le film présente également un reflet dramatique de la société actuelle, très bien construit, où la symbolique du masque de clown et les tensions entre la population riche et pauvre de Gotham rappelleront assurément à tout citoyen français ayant vu le film la symbolique du gilet jaune et les tensions actuelles entre le peuple et le gouvernement. Sauf que le degré de tension évoqué par le film est bien plus apocalyptique. En effet, lors d'une scène du film, Arthur Fleck tue par légitime défense des riches de la haute qui ont voulu le tabasser à mort, ce qui l'amène à être recherché comme criminel par les autorités, mais dont l'acte sera particulièrement salué par le peuple pauvre comme un signe de résistance envers la classe de riches. Au point que cela finira par entraîner la naissance du Batman, qui aura donc été légèrement réécrite pour correspondre au film, mais sans toutefois différer de la tragédie qu'a connue Bruce Wayne. Au final, Joker est un excellent film à regarder, loin de chercher à faire sourire le spectateur, qui montre que même le cinéma hollywoodien aura été marqué par les différents mouvements de révolte civile qui ont eu lieu un peu partout dans le monde ces derniers mois. Non, plus sérieusement, c'est un film des plus fascinants à voir absolument. Il n'y a qu'à regarder les débats qui tournent autour du long métrage pour savoir si c'est un film soit d'une caricature de facho rappelant qu'il faut tuer des riches, soit un long métrage dédiant une ode à la symbolique du masque de Vendetta, ou soit un pur chef-d'œuvre de vérité troublante pour comprendre à quel point il est impactant, tant bien cinématographiquement que psychologiquement parlant. Et maintenant je vais vous laisser sur cette note en compagnie d'une petite pause musicale et je vous dis à tout de suite pour la suite du programme avec les sorties en vrac suivies des événements à venir.
Tu as eu ce regard hagard, indifférent, mais qui, pour ma part, fut la magie d'un instant. Puis tu as eu ces mots, si courts, si communs, qui ont couru sur ma peau, à m'en faire trembler les mains. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a suivi. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire. Sans pleurs, c'est tard, sans instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure. On marchera. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire. Sans pleurs, c'est tard, sans instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure. On marchera, ouais. Juste pour que ça dure. Ébouriffer ta mèche, écarquiller tes cils. et c'était l'évidence. Dans ces moments futiles, sans discours ni confidence, on dansait sur le même fil. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans. Pour que ça dure, juste pour que ça dure. Ce n'était pas grandiose, mais ça m'a suffi. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire. Sans pleurs, c'est tard, sans l'instant, le temps peut bien.
Vous êtes à nouveau sur les Fréquences Geek avec votre animateur Bastien qui vous parle pour la suite de notre programme sur la culture geek avec les rubriques sorties en vrac et des événements à t'avenir. Alors tout de suite, on va commencer avec les sorties en vrac et je vais vous parler de Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu vidéo d'action et d'aventure solo développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts et qui, comme son nom l'indique, se déroule dans l'univers Star Wars peu après l'épisode 3 de La Revanche des Sith. Autrefois annoncé lors du salon de l'E3 2018, ce fut lors de la célébration de Star Wars en avril 2019 que les développeurs du jeu annoncèrent la disponibilité sur les plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One pour le 15 novembre 2019. Au programme, il faudra contrôler un jeune Jedi survivant de l'Ordre 66 nommé Cal Kestis, alors qu'il est poursuivi par l'Empire et tout particulièrement par Inquisitor, The Second Sister. Tout au long de son parcours, le jeune Cal visitera à la fois de nouveaux mondes et des mondes emblématiques de Star Wars, tels que Karshrik. Avec l'aide de l'extrémiste rebelle Saw Gerrera et son mentor Cere Judah. Le gameplay est celui d'un jeu d'action-aventure, conçu non pas avec un style à la Beat'em All de Star Wars The Force Under Shield, qui était d'ailleurs connu pour sa possibilité à choisir entre le côté obscur et le côté lumineux de la Force, mais plutôt de suivre une trame montée uniquement de côté lumineux de la Force, avec un panel d'action digne d'un Assassin's Creed, rendant ainsi la progression du jeu plus technique et moins bourrin que ce que l'était son prédécesseur. Son prix de sortie, entre 60 et 70 euros disponible dans tous les points de vente participant à l'opération. Et sur ce, on va passer maintenant à la suite avec les événements à venir. En cette approche de fin d'année, cette rubrique sera principalement dédiée à des concerts musicaux, mais aussi bien sûr avec un salon événementiel à ne pas louper si vous passez dans le coin où ça aura lieu. Miramas Geek Show. Se déroulant le 23 novembre à la salle des fêtes de Pierre-Tirmancy à Miramas, elle est organisée par Mira Station. Le Miramas Geek Show est un salon ouvert à tous les fans d'univers geek le 23 novembre à partir de 10h, avec des invités exceptionnels jamais vus à Miramas. Franck Animé Live, Zed Le Rouge du groupe Asteroach, Killerby et bien d'autres têtes francophones connues de la communauté geek y seront présents. L'entrée est à partir de 3€ en précommande et de 4€ sur place avec parking gratuit et buvrerie présente. Beaucoup d'animations tout au long de la journée, de la VR, du Warhammer, du jeu de table, bref, de quoi passer une très bonne journée. Alors avec un petit connu du lot, on va passer au concert d'Astéroage qui se déroulera le 21 décembre au Zénith d'Auvergne. Le Rock TV Show du groupe Astéroage est un space opéra rock activement recherché par les autorités les plus tyranniques de la galaxie. Il met en scène 5 pirates de l'espace, musiciens venus à bord de leur vaisseau spatial pour redonner la joie, le sourire et l'insouciance de l'enfance à son public et dont RTVFM a eu le plaisir même de les recevoir fréquemment à chacune de nos présences lors du Salon du Geek Universe. Ce spectacle familial et énigmatique et riche et haut en couleurs va vous transporter à travers le temps des années 70 et jusqu'à aujourd'hui grâce au plus grand générique TV. le Capitaine Z et ses acolytes Strom, Tan, Keizuku et Gorgar vous racontent leur aventure à travers de somptueux décors et vous emmènent dans les univers Goldorak, Pokémon, Albator, Game of Thrones, Ghostbusters ou encore Scooby-Doo. Attention, ce sont des pirates et par conséquent, l'ambiance est très rock. Ce spectacle s'adresse donc à tous les enfants de 4 à 444 ans. Vous avez connu Captain Flamme, les Cités d'Or, Denver ou encore Olivier Tom ? Bon, bah alors, venez assister au Rock TV Show d'Astéro H et replongez en enfance tout en gardant votre âme d'adulte. Le groupe Astéro H s'est produit sur de nombreuses scènes, lors des conventions geeks de Marseille à Paris, en passant par Bordeaux et Nancy, et propose un show exceptionnel au Zénith d'Auvergne le samedi 21 décembre 2019. Vous y découvrirez toute la nouvelle scénographie, de nouveaux décors, des effets spéciaux, des danseurs, des costumes et bien sûr de nouvelles chansons pour leur troisième album qui sortira à cette même date. Alors, oserez-vous pénétrer à bord et embarquer pour une aventure dont vous n'en ressortirez pas indemne ? Si vous en avez le cran, sachez que ce sera 21€ par personne à l'entrée. Era, The Live Experience et Music of John Williams versus Hans Zimmer. Se tenant du 26 au 28 décembre, et oui, ça va se produire, du 26 au 28 décembre, deux grosses figures de groupes de musique épique referont durant cette période leur grand retour sur les scènes de la salle de péril à Paris. Tout d'abord, du 26 au 27 décembre, reviendra du tréfonds des chants dignes des fables celtes, le groupe Era. Ce véritable mythe des années 2000 est de retour avec un spectacle hors du commun. C'est un véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Lévis et ses 40 danseurs, chanteurs et musiciens qui vous attendent. Alors que la première date parisienne était prévue pour le 18 avril, à la scène musicale, aujourd'hui encore, Era rajoute encore deux dates supplémentaires à la tournée, qui sont le 26 et le 27 décembre à la salle Pierrel. 20 ans après le triomphe de son premier album, Era se prépare à éblouir à nouveau avec un spectacle fabuleux les gens qui replongeront dans l'univers fantastique et fascinant du groupe qui a vendu plus de 12 millions d'albums à travers le monde et qui n'avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Son prix d'entrée, 45,50€, donc va valoir un superbe cadeau de Noël à condition bien sûr que les places sur réservation dans tous les points de vente participants sont encore disponibles. Mais cela ne s'arrêtera pas là en si bon chemin, car pour le 28 décembre, au même endroit, il y aura une autre, ou plutôt deux autres grandes figures de la musique épique. Du coup, si je vous dis Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Batman, Pirates des Caraïbes, Jurassic Park, Interstellar ou encore Indiana Jones, qu'ont-ils tous en commun ? John Williams et Hans Zimmer. Lors du 28 décembre, vous pourriez donc redécouvrir vos musiques de films préférées lors d'un concert symphonique exceptionnel le 28 décembre 2019 à la salle de Pierrel. Avec plus de 85 musiciens sur scène, le Yellow Shock Orchestra, dirigé par le chef Nicholas Simmons, interpréterait les bandes originales cultes des deux compositeurs de génie. Pendant près de deux heures de spectacle, replongez au cours de ces fresques musicales épiques qui ont marqué l'histoire du cinéma. Que ce soit E.T. Extraterrestre, La Liste de Schindler, Les Dents de la Mer, Inception ou autres, des mélodies inoubliables comme jamais, signées John Williams et Hans Zimmer, qui participent depuis plusieurs décennies au succès des plus grands chefs-d'œuvre hollywoodiens, seront là, présents, sur scène, afin de nous faire écouter à nouveau leur symphonie. Après une journée triomphale en Europe, The Music of John Williams versus Hans Zimmer arrive à Paris pour une date unique et exceptionnelle. Rendez-vous donc le 28 décembre 2019 à la salle de Pierrel pour vivre une aventure symphonique inoubliable. Prix d'entrée, 37€ par tête. Alors, c'est pas beau comme fin d'année ça ? Vente sur réservation dans tous les points de vente participants. C'est maintenant la fin de notre émission et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission du Fréquence Geek. Tchuss !
Vous venez d'écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.